Frères et sœurs, les amis, nous voilà donc arrivés au deuxième dimanche de l'Avent, alors que vous avez devant vous la crèche illuminée qui rappelle la finalité de ce chemin de l'Avent. Le premier verset de l'évangile de saint Marc que nous accueillons, chapitre 1, versets 1 à 8, décrit le mystère même de la personnalité de celui que nous allons fêter en son anniversaire le jour de Noël. Quatre mots, Jésus, le Christ, le Fils et Dieu. Quatre mots qui résument tout le mystère de la personnalité de Jésus de Nazareth. Il est donc Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve, qui signifie Dieu sauve. Il est Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, qui est marqué de l'esprit même de Dieu. Et il est Fils, c'est-à-dire qu'il a un Père, qui est Dieu le Père, et donc une relation de filiation à paternité et de paternité à filiation. Eh bien, tout cela constitue une bonne nouvelle. Vous savez que c'est la traduction même du mot « évangile »,« evangelium », qui veut dire « bonne nouvelle », mais non seulement une nouvelle qui est bonne, mais une nouvelle qui était extraordinaire, puisqu'elle a changé et elle change le cours de la vie et de l'existence. Alors très curieusement, saint Marc ne va pas commencer sa bonne nouvelle en nous annonçant ce que nous avons fêté le 25, la naissance du Christ, mais en nous arrêtant ou en nous proposant d'arrêter notre intelligence et notre réflexion sur la personne de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste parut dans le désert. Alors vous savez que, je vous rappelle souvent que Marc est un évangile très soucieux du détail. Et je me suis arrêté sur deux éléments qui peuvent paraître complètement inintéressant, et je vous le concéderai volontiers. Voilà que Marc s'arrête à nous décrire le vêtement de Jean-Baptiste, à la limite le vêtement on peut s'en fiche, et la nourriture. Alors je me suis dit que si Marc le fait ici pour la personnalité de Jean-Baptiste, c'est que cela a un sens. Et a un sens non pas anecdotique, non pas uniquement descriptif, mais a un sens spirituel et théologique. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, nous dit l'Écriture, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors je ne sais pas si vous avez déjà mangé des sauterelles, il paraît que ce n'est pas si mauvais que ça et que c'est plein de vitamines, mais pour ma part je préfère le miel. Et surtout le miel sauvage, qui ne doit pas être si mauvais que ça et qui est même très bon pour la santé. Alors, de la part de saint Marc, il ne s'agit pas uniquement de nous proposer une sorte de naturopathie ou d'ascétisme, mais souvenez-vous et rappelez-vous qu'est-ce que veut dire le désert et qu'est-ce que c'est que le désert, hein, je vous le rappelle très très souvent. Dans l'Écriture sainte, tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, le désert comme la montagne sont des lieux de rendez-vous privilégiés de Dieu. Et donc si Jean le Baptiste se trouve au désert, c'est pour nous rappeler que c'est au désert que tout a commencé, si je puis dire. Et qu'est-ce qui a commencé au désert? Mais la grande aventure de l'alliance avec Dieu. Donc, en nous rappelant le désert au travers de la personnalité de Jean le Baptiste, saint Marc tente de nous dire que la venue de Jean-Baptiste est une chance pour nous et une proposition de retourner au désert et de faire des retrouvailles avec Dieu, tout simplement, parce que c'est là le lieu de l'alliance historique qui a été conclue dans le désert. Dans cet exode, et très spécialement raconté dans le livre de l'Exode, pour une alliance définitive, plus tard, en la personne de Jésus-Christ. Voilà. Donc, aller au désert, non pas simplement pour y faire un petit tour d'exotisme, mais pour nous rappeler spirituellement et théologiquement que c'est là le lieu de l'alliance et de l'alliance définitive avec Dieu qui se conclura définitivement par la personne du Christ. Et voilà pourquoi bien, cet évangile nous est donné au moment de l'Avent, où nous préparons notre cœur à accueillir ce qui va sceller de manière vivante, cette fois-ci, par la venue d'un petit enfant, c'est-à-dire du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, qu'annonçait l'évangile de Saint-Marc de ce jour dans le premier verset. Alors, là, le vêtement de poil de chameau, ça doit vous rappeler, frères et sœurs, le vêtement que portait Élie. Donc, ça veut tout simplement nous dire que, de même qu'Élie était un prophète, Jean le Baptiste est un prophète. Du reste, certains pensaient que c'était Élie qui revenait sur terre en personne pour nous annoncer la venue du Messie. C'est peut-être probable, mais... voilà ce qui nous est rappelé sur le plan théologique. Nous avons affaire donc à un prophète, et tout le monde sait ce qu'est un prophète. Il est là, chargé de préparer pour nous les voies ou la voie du Seigneur au travers, très spécialement, de la fête de Noël. Alors, ces deux éléments que je viens de rappeler, l'alliance dans le désert, ou le désert qui symbolise l'alliance, plus exactement. Et puis, ce personnage qui est Jean le Baptiste, qui porte, comme le prophète Élie, un vêtement de poil de chameau, on peut très bien comprendre qu'il y avait autour de sa personne, la personne de Jean le Baptiste, une certaine effervescence. Voilà donc que ce Jean le Baptiste va proposer un baptême. Je rappelle que « baptizain » en grec veut dire « plonger ». Et il va s'inscrire dans le rite juif de toutes les ablutions. Vous savez, le baptême, ce n'est pas évidemment seulement se laver les mains, comme avant chaque repas et comme la religion juive le demandait, mais il invite à se plonger totalement pour une purification. Mais Jean le Baptiste va bien préciser qu'entre son baptême, c'est-à-dire le baptême qu'il pratique, et le baptême qui va être proposé par le Christ lui-même, ça va être le baptême dans l'Esprit Saint. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il n'y aura plus d'intermédiaire, comme Jean le Baptiste, mais ce sera Dieu lui-même qui transformera son peuple, puisque le baptême nous fait nous transformer, si je puis dire, en fils et filles de Dieu à part entière, greffés sur la personne du Christ. Alors, de manière conjointe, nous est proposé aussi de modifier peut-être un petit peu, ou de purifier, c'est le cas de le dire, notre conception de la pureté. Ça, c'est assez important. La pureté, ou se nettoyer, ou se rendre pur, ce n'est pas ce que nous pensons spontanément. Nous pensons la pureté en termes d'innocence, en termes de c'est une âme toute pure, parce qu'il ne connaît rien des lois de la vie ou des expériences de la vie. Non, ce n'est pas ça du tout. Nous parlons ici de la propreté spirituelle pour nous rappeler que la purification, ce n'est pas simplement un simple nettoyage, mais histoire de laver son âme, comme on dit. Mais en réalité, la pureté au sens religieux, s'il y avait une image à prendre, je prendrais une image chimique, même si je suis loin d'être un chimiste. Mais vous savez que... lorsqu'on fait des expériences en chimie, on va dire d'un corps qu'il est pur quand il est sans mélange. Donc je pense que l'image, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que si nous sommes invités à être sans mélange, ça veut dire que il y a auparavant un mélange en nous. Nous l'avons déjà dit, quelques dimanches précédents, entre une part d'obscurité en nous et une part de lumière en nous, et que nous sommes invités à avoir un cœur pur, et un cœur pur, c'est un cœur qui est tout entier tourné vers Dieu. C'est-à-dire que nous avons aussi, sur le plan biologique, à avoir un sang le plus pur possible pour que notre santé soit la meilleure possible. Et donc un sang qui soit sans mélange. Alors sur le plan spirituel, c'est tout simplement bien un sang qui coule sur la bonne voie, V-O-I-E, hein, pour nous détourner de tous les idoles que nous pouvons connaître aujourd'hui et toutes sortes d'addictions que nous pouvons avoir dues à la trace du péché qui est en nous. C'est tout simplement être tourné vers Dieu, d'avoir sans cesse notre cœur, notre foi, notre intelligence, nos talents au service de Dieu et tourné vers Dieu. Et puis de se rappeler, pour terminer, que la purification, ce n'est pas notre œuvre personnelle. Je pourrais faire toutes les tentatives possibles et imaginables de me nettoyer. Ce n'est pas mon œuvre. Ce qui est proposé, c'est de me mettre en disposition d'accueillir l'œuvre même de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui nous purifie. Et c'est ce que dit saint Jean-Baptiste, hein. Dieu lui-même va vous remplir de l'Esprit Saint. Donc nous n'avons qu'à nous laisser faire, tout simplement, et accueillir dans la simplicité. Du reste, le Fils unique de Dieu est venu dans la simplicité la plus pauvre, la plus basique possible, dans un petit logement et dans une mangeoire, parce que la mangeoire est un symbole très important pour nous rappeler qu'à notre tour nous aurons à manger le corps du Christ par la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion, mais tout simplement nous redire que notre cœur doit être aussi disponible, aussi pur dans son accueil, c'est-à-dire que chacun de nos cœurs doit être une véritable crèche vivante. Amen.